Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, dans ses vœux pour le nouvel an, le secrétaire général de l'ONU lance un message d'espoir et de résilience. Une étude de l'ONU met en lumière la manière dont les victimes de la traite des êtres humains sont hébergées. Et nous revenons sur le combat de la Grande-Duchesse de Luxembourg pour défendre les enfants nés d'un viol. À quelques jours du Nouvel An, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un message d'espoir et de résilience alors que le monde est confronté depuis 2 ans à la pandémie de Covid-19. À cela s'ajoutent le changement climatique, les conflits et la pauvreté, mais aussi des clivages et une désinformation persistante. On l'écoute.
Ce sont des épreuves morales et vitales que l'humanité peut surmonter si nous nous engageons à faire de 2022 l'année du relèvement pour toutes et tous. Un relèvement de la pandémie par la mise en œuvre d'un plan courageux pour vacciner chaque personne partout dans le monde. Un relèvement de nos économies avec des pays riches qui soutiennent les pays en développement par des financements, des investissements et un allègement de la dette. Un relèvement qui tourne la page de la défiance et de la division et qui redonne toute sa place à la science, aux faits et à la raison. Un relèvement après les conflits dans un esprit renouvelé de dialogue, de compromis et de réconciliation. Et un relèvement pour notre planète par des engagements pour le climat qui soient à la hauteur de l'ampleur et de l'urgence de la crise. Les temps de grandes épreuves sont aussi des temps de grandes opportunités, celles de nous rassembler dans la solidarité, de nous unir autour des solutions qui pourront bénéficier à toutes et à tous, et d'avancer ensemble, plein d'espoir dans ce que notre famille humaine peut accomplir.
Une nouvelle étude de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, met en lumière la manière dont les victimes de la traite des êtres humains sont hébergées ou forcées de séjourner dans des lieux avant et pendant leur exploitation ou entre les périodes d'abus. Selon Martin Emy, expert à l'ONUDC, l'étude a permis de montrer que l'hébergement prend place dans 3 scénarios. On l'écoute.
Le premier scénario, c'est cet hébergement de la victime prend place au même endroit où les personnes sont exploitées, par exemple dans un hôtel ou dans une chambre d'un bordel où l'hébergement et l'exploitation, ça prend place en même temps. Et dans le deuxième scénario, les victimes, ils sont hébergées même avant d'être exploitées. Par exemple, c'est où les victimes, ils sont hébergées dans un endroit avant d'être transportées, par exemple, dans un autre pays, où ils sont obligés à faire le travail forcé ou poussé dans l'exploitation sexuelle. Alors, dans ces cas-là, ça suffit que les personnes ils ont gardées dans un endroit avec l'intention de les exploiter plus tard. Et dans le troisième scénario, où l'hébergement, ça prend place pas en même temps, peut-être pas au même endroit où l'exploitation prend place. Je peux vous donner un exemple du mendicité forcée, où la personne est obligée de demander de l'argent partout dans la ville, mais le soir, la personne revient et est hébergée dans un autre endroit. Et dans ce troisième scénario, cet hébergement, c'est le seul acte qui est applicable dans la définition internationale de la traite.
La représentante spéciale de l'ONU chargée de la question des violences sexuelles en temps de conflit, Pramila Patten, a nommé cette année la Grande-Duchesse de Luxembourg, Maria Teresa, championne de la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, en soutien au plaidoyer des Nations Unies. Elle met ainsi à l'honneur le combat de la Grande-Duchesse pour défendre notamment les enfants nés d'un viol, souvent condamnés à une double peine par leur société. On écoute la Grande-Duchesse de Luxembourg.
Ce sont les survivantes qui m'ont parlé de leurs enfants nés du viol et de la manière dont ces enfants n'avaient aucune reconnaissance, aucune identité, aucune existence en fait, juridique ou sociale. C'est plutôt le contraire, plutôt le rejet. Ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de reconnaissance et ne peuvent même pas porter le nom de leur mère. Les enfants nés du viol des Yézidis ne peuvent pas porter le nom de leur mère Yézidi. Ces enfants payent la double peine. Nous ne leur laissons d'autre choix que de partir vers la violence. Et très souvent, ces enfants tombent dans l'extrémisme et sont repris par ISIS et par d'autres mouvements terroristes ou comme enfants soldats. Vous savez, en Afrique, une maman me racontait que quand elle allait sur le marché avec leur enfant, les gens dans le marché de son propre village refusaient de leur vendre de la nourriture et qu'on appelait son enfant un serpent de serpent.
Voilà, fin de ce bulletin d'ONU Info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. À demain, même heure, même fréquence.